Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Programme chargé cette semaine avec pas moins de 5 jeux, parmi lesquels Sherlock, le testament de Sherlock, FIFA 13, Little Big Planet Vita, Hell Yeah et Mark of the Ninja. Oui, bon, on nous a déjà critiqué parce qu'on parlait trop vite, parce qu'il y a un programme trop chargé, donc on s'est dit, on va mettre 5 jeux.
On fait une surenchère.
Voilà, surenchère. Le com des com, Monsieur Fad, la minute culturelle comme d'habitude, et je vais commencer par recueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes, bonjour. Bonjour Joël.
Bonjour.
Et Patrick Elio de Hitphone.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
On commence avec toi Joël, avec du côté de la Suède.
Oui, des petites news du côté de la Suède, du côté de Mojang, donc des studios qui sont à l'origine de Minecraft. Ils ont donné quelques chiffres concernant le nombre de ventes en digital, en numérique de Minecraft, donc sur XBLA. C'est assez énorme, quoi. C'est 4 millions de Minecraft de personnes
qui ont acheté.
Alors, il est sorti il y a quelques mois. Il y a quelques mois déjà. Donc 4 millions, c'est assez énorme. Et autre news concernant Mojang, c'est qu'ils viennent de signer en fait avec un éditeur de livres pour enfants. Un éditeur de livres pour enfants pour en fait auquel ils ont confié les droits de Minecraft pour publier donc des magazines, des bouquins partout sauf aux États-Unis. D'ailleurs l'accord inclut pas les États-Unis. Le studio s'appelle Egmont Publishing. Et il est également en fait cet éditeur à l'origine d'un autre partenariat avec un autre studio qui fait beaucoup de merchandising, qui d'ailleurs a un tiers de ses revenus qui proviennent de la vente de produits dérivés. Il s'agit des studios Rovio finlandais qui font Angry Birds. Bien donc Minecraft vraiment qui va
commencer. À noter aussi sur Minecraft que les Lego sont arrivés à écran.fr. Ah, oui. Camille a reçu sa boîte de Lego Minecraft,
c'est bon,
donc
Et en bouquin, on sait pas quel genre ça va être, c'est quoi BD, roman,
non mais pour enfants,
c'est quoi des pop-up, ça serait vraiment
rigolo, serait rigolo
pop-up avec des trucs en volume qui sortiraient,
ça serait pas mal, ouais.
Ouais,
ou des bouquins avec des trous.
Un côté ludique.
Allez, Patrick, oui, toi, plein de remakes.
Et oui, plein de remakes qui sont annoncés. Alors, des choses qui nous font rêver, d'autres qui inquiètent un petit peu plus. On va faire un point rapidement tout de suite. Alors oui, j'ai vu passer pas mal d'annonces sur le sujet. Je commence par Zaxxon. Vous rappelez-vous de Zaxxon?
Oui.
Bien sûr, un fameux shoot en vue isométrique qui était très innovant pour l'époque. Il va revenir très bientôt sur iOS et Android avec une nouvelle version qui va s'appeler Zaxxon Escape. Wow. Ça sera visiblement chez Sega. Donc d'accord. Voilà, ça, on attend de voir.
Autant je me suis éclaté à l'époque sur Zaxxon, j'ai pas du tout envie d'y rejouer.
On est un peu d'accord, je trouve que Zaxxon, c'est vraiment un jeu qui cartonnait à son époque, qui était très innovant pour l'époque. le voir refait aujourd'hui, bon, on va voir. C'est un petit peu le cas, le même problème que j'ai sur le suivant, c'est Karateka de Mechner, qui a été annoncé, donc il va être refait. Il arrive sur XBLA, PSN et sûrement PC aussi à partir de novembre. Hein. On n'a pas exactement les délais, mais bon, c'est imminent. Une version refaite avec des graphismes en cel shading qui devrait garder grosso modo la même mise en scène. Hein, un combattant qui va comme ça friter
alors
plusieurs
adversaires. Alors
que ça
aurait été simple, avec des personnages digitalisés, t'aurais dit du bien.
Pas forcément digitalisé. Non mais voilà, c'est encore un de ces... Voilà, c'est aussi le même problème, c'est que c'est un jeu qui était très performant pour l'époque, avait un de ses premiers jeux qui avait une vraie mise en scène cinématographique. Voilà, le refaire aujourd'hui avec des graphismes cel-shading, ça fait un petit peu peur. Est-ce qu'on va garder le même... Moi, à la limite, je vais remettre ma version...
C'était un des premiers jeux qui utilisait la rotoscopie.
Exactement, hein, les animations qu'on a revues après sur Prince of Persia, etc. Ouais. Et c'est vrai que la version Apple II était magnifique. Moi, j'ai une version Atari 7800 qui est très bien aussi. Et bon, voilà, c'était un jeu qui était impactant pour l'époque. Ah, on va voir sur le remake. Moi, un petit remake que j'ai trouvé il y a quelques jours sur le XDLA, je crois que c'est dans la boutique indé, c'est Jet Set Willy. Alors, c'était un jeu sur Spectrum que certains d'entre vous ont peut-être connu, un jeu de 84, un jeu de plateforme. Non, personne ne l'a connu. Ben, c'est bien dommage. C'est vraiment une référence des années 80. Ça a été adapté par Elite. C'est pas très très cher. Ça se télécharge, je crois, sur la boutique indé. Et c'est très très bien. C'est vraiment du bon jeu de plateforme et je le recommande chaudement. En plus, on a une petite émulation avec une fausse télé à tube qui est visualisée à l'écran. Mmh. Alors, c'est le petit détail qui fait plaisir. Hein, aux aficionados. Alors j'ai vu un communiqué passer comme quoi on avait deux jeux Sega qui revenaient là sur le XBLA et le PSN, c'est Knights et Sonic Adventures 2 qui arrivent en version HD, 8€ pièce chacun. Voilà, c'est plutôt des bonnes pioches, hein, ces deux jeux-là sont plutôt à voir, donc des graphismes légèrement retouchés. Et puis pour finir, on a eu la confirmation il y a quelques jours que Oddworld, l'Odyssey d'Abe, revenait en version refaite. Bien. Alors ça, c'est très très bien. Ça arriverait l'année prochaine sur PS3, 360, Vita et PC. Et ça s'appellerait New and Tasty, visiblement. Ce serait le sous-titre de cette nouvelle version. Ça reprendrait donc le jeu original qui était... très très bon, on se rappelle, un jeu de plateforme vraiment intelligent avec des énigmes, etc. Vraiment, enfin, qui avait une vraie patte graphique et même de gameplay. Et on aurait une bande son refaite et surtout des mouvements de caméra plus fluides, c'est-à-dire qu'on aurait plus le passage d'un écran à l'autre comme ça un peu à la dure qu'on avait. Et tout ça serait de façon beaucoup plus fluide. Et voilà, ça arrivera l'année prochaine en digital.
Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, ce que j'aimerais beaucoup dans ce genre de remake, c'est qu'ils prennent l'habitude de faire ce qu'ils avaient fait sur Monkey Island, on s'en rappelle, avec la touche qui permettait jouer à l'original et d'avoir soit nouveau, soit ancien graphisme. D'accord. Parce que finalement, moi, je suis très fan de ces remakes de jeux marquants parce que ça permet aussi de redécouvrir toute une culture du jeu vidéo qui a une tendance à oublier le passé très très vite. Et en même temps, le côté sauf ici.
On est bien d'accord.
Sauf que voilà, le côté remake, le côté HD, le côté refait, tout ça. Finalement, j'aimerais bien avoir la possibilité de retrouver comment ça
c'est
se jouait à l'époque.
Bien sûr, sur le karatéka notamment, ça serait un vrai plus de pouvoir basculer sur l'ancienne version.
J'espère qu'ils vont avoir cette présence d'esprit.
On verra.
Le com des coms de la semaine dernière, on commence avec une critique de Cubic à propos de Borderlands 2. Je suis déçu pas par vos avis, c'est les autres, mais je n'ai pas encore lancé le jeu. Donc perso, je n'en ai pas, mais sur la critique elle-même, sérieusement, je n'ai pas encore commencé et j'avais beaucoup aimé le 1. Je me suis dit que vous alliez me faire sauter le pas alors que je me retiens tant et que je n'ai pas fini le jeu sur lequel je suis, soit Darksiders 2. En vous écoutant, j'ai l'impression d'écouter une critique du premier. Quand Clément cite les différentes classes de perso, c'est celle du premier. Je veux bien que toutes les nouvelles y ressemblent, mais quand même, à un moment, j'entends et puis ce qu'il y a de bien par rapport au premier. Et je me dis qu'enfin, on va parler des améliorations. Mais en fait, non. On ne fait qu'évoquer les différents types d'armes élémentaires, les différents boucliers, à se demander si vous n'êtes pas trompé de jeu en préparant la chronique. Il faut croire qu'ils se ressemblent aussi un peu. C'est des jeux qui sont assez proches l'un de l'autre, deux ans d'écart, un peu plus de deux ans d'écart. Et puis moi, j'avoue que pour mon cas, j'étais passé à côté du premier. Donc c'est finalement, on n'a pas évoqué Borderlands 2 en miroir de Borderlands 1. On en a parlé comme d'un jeu indépendant en soi, à part entière. Ouais. Et voilà. Bon, bah après, je comprends les remarques par ailleurs. Nico qui apporte quelque chose. Il y a un lien qui n'a pas été expliqué par nos chroniqueurs dans la nouvelle recette de Borderlands 2, le niveau de Brutas. Oui, c'est vrai qu'on est passé à côté et je voulais en parler, mais j'ai complètement zappé. Concrètement, faire monter sa jauge de Brutas consiste à remplir une infinité de petits objectifs au cours de ses parties, comme tuer 50 ennemis avec un snipe sans zoomer, défoncer des nabos, ouvrir 100 caisses, ramasser un certain nombre d'objets verts, etc. Une fois remplie la jauge de Brutas, on a la possibilité de dépenser des jetons dans des petits effets bonus pour notre personnage. Améliorer les dégâts des armes, augmenter sa vie ou la vitesse de régénération de son bouclier font partie de la liste des bonus cumulables. Oui, c'est vrai, c'est un petit détail de gameplay que nous avions omis. Et enfin, Osawa qui s'insurge, je presse, non, c'est un petit peu fort sur notre critique du monument, hein, du monument Super Amazing Wagon Adventure. Il dit, eh bien, les bras m'en tombent. Sérieusement, comment un type a pu créer une telle chose? J'adore le principe, c'est vraiment génial, la scénarisation par jour des événements, complètement what the fuck. Jour 6, vous croisez une licorne, vous la suivez, et voilà, vous arrivez dans la forêt magique, et bim, je débloque le wagon carrousel magique. Mais non, je ne supporte pas le gameplay. Faire un bon jeu ambiance vieillot, comme Mutant Muds, je dis oui, mais là, je n'arrive pas à terminer la démo. Autant à cause de la difficulté que de mon manque total d'envie. Et la musique m'horripile de plus en plus, minute après minute. Non, sérieusement, désolé, je préfère retourner à Destroy du Mecha sur la Alpha de Hawken. Je pense qu'il y a un effet peut-être qui n'est pas présent sur la démo, ou j'en sais rien, mais un effet hypnotique de répétition aussi. Il faut y jouer. Et là où
c'est un jeu qui laisse pas de marbre.
Et là où je suis pas d'accord, c'est la musique. Je suis absolument fan de la musique de Super Amazing Wagon Adventure. On rappelle, hein, 1€ un jeu indé en fait.
Oui, c'est même pas sur l'indé de la XBL.
Jeu indé. Voilà, c'est parti, c'est Sherlock.
Why did it have to come to this, Holmes? All those years of friendship and respect, of trust. Everything that we went through together. And you deceived me all along. Damn you. I wish that I had seen through all of your lies. It is all over. Unfortunately, a little something was omitted, which would have made the results fatal. Instead, it merely caused acute attacks.
Le testament de Sherlock, on revient sur du jeu d'aventure, presque du old school, mais sur console, entre autres, hein, c'est sur PC aussi, mm-hmm. hein, bien sûr. Édité par Focus, ouais. Donc les aventures de Sherlock,
Exactement, alors édité par Focus, mais développé par Frogwares. Alors ça, c'est un peu un studio qui s'est spécialisé depuis maintenant, je crois, une bonne dizaine d'années sur le créneau des jeux Sherlock Holmes. Hein, c'est eux qui ont fait évoluer la série depuis maintenant quelques années, avec une évolution technique et aussi scénaristique, hein, depuis quelques temps. Rappelez-vous, on avait parlé, je crois, ici, il y a deux ans, peut-être, du dernier en date, qui était Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, qui était plutôt pas mal, hein, qui tenait bien la route, que j'avais essayé sur PC, qui était vraiment pas mal. Et là, donc, on a une nouvelle itération, avec cette fois-ci, on le sent très bien, un effort pour aller vers plus de consoles, c'est-à-dire un gameplay plus orienté vers les consoles. Et puis aussi une avancée au niveau scénaristique, hein, toujours questionner l'univers de Sherlock Holmes. Donc les points forts ce qu'il faut retenir de ce jeu, donc c'est ça, donc c'est une nouvelle interface, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une vue à la troisième personne à la première personne avec un bouton, et puis on est sinon dans les codes du jeu point and click. Alors c'est assez original, d'ailleurs on est dans une certaine évolution du point and click classique, c'est-à-dire qu'on retrouve certains composants, c'est-à-dire des objets activables dans une scène, hein, on va arriver devant, on va avoir une petite loupe qui veut dire qu'on peut activer ou l'enclencher, mais tout en étant dans un environnement 3D où on va se balader à l'intérieur, etc. Donc c'est un espèce de mix qui marche plutôt bien, je trouve, de logique point and click et de représentation 3D. Donc ça, c'était déjà un...
Joël,
non, mais effectivement, la vue à la première personne, c'est vachement agréable, quoi.
De pouvoir switcher, machin, ils sont complémentaires.
Voilà, de pouvoir voir le personnage de Sherlock ou celui de Watson qu'on va parfois incarner, et de pouvoir voir en fait à la première personne l'environnement, quoi.
Exactement.
Pour le scruter.
Mm-hmm. Alors moi j'ai eu un petit problème. Alors moi je vais être un des peut-être 5% de joueurs qui vont avoir ce problème, moi, sur la version console, c'est que j'ai pas pu redéfinir les axes comme je voulais. C'est-à-dire que normalement moi j'inverse toujours les commandes. Moi je suis un peu tordu. Je joue comme dans un simulateur de vol. Et en fait là c'est impossible. C'est ou bien on est en vue de base, ou alors on inverse complètement tout, gauche droite haut bas. Donc j'ai eu un petit souci à ce niveau-là. Allez. Ça m'a demandé un petit moment d'adaptation, mais on s'y fait. On s'y fait parce qu'on s'accroche. On s'accroche à ce jeu. Il a quelques défauts techniques. Je trouve que graphiquement c'est pas encore ça. Ça avance, hein, d'épisode en épisode. Je trouve qu'il est plus beau que celui du dernier dont je parlais tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une évolution. C'est pas encore ça. On sent qu'il y a encore il y a encore du travail, c'est encore un petit peu, mais c'est pas là où on s'arrête. Moi ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est le scénario. Je trouve qu'il y a une qualité d'écriture qui s'affirme chez Frogware. Je trouve qu'ils ont bien su jouer sur les codes de l'univers Sherlock Holmes, et notamment moi c'est un des sujets qui m'intéresse le plus dans l'univers Sherlock Holmes, c'est ce rapport entre Watson et Holmes, qui est toujours très intéressant. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Et c'est vraiment ici au cœur de l'histoire. C'est leur rapport entre les deux. On va se poser pas mal de questions sur Holmes au niveau suivi du scénario. Et je trouve qu'il y a vraiment, enfin, c'est vraiment bien travaillé à ce niveau-là. Et je trouve que même au niveau narratif, il y a des très bonnes idées, parce que ce qu'on apprend, c'est par le point de vue de, enfin, l'histoire est racontée par Watson. Donc, il y a dans la narration certaines ellipses où on va pas forcément avoir toutes les clés du mystère tout de suite, parce que certaines sont tenues par Holmes, même si on le commande parfois.
D'accord.
Je sais pas si je suis très clair.
Oui, si.
Et voilà, tout ça, je trouve que c'est bien agencé et on joue bien sur les codes de l'univers Sherlock Holmes. Sinon, donc, pour revenir sur le genre lui-même, donc on est sur un mix entre donc des dialogues, des recherches d'indices, pas mal de discussions avec des personnages. On a aussi donc des énigmes, évidemment, à résoudre, des énigmes dont qui vont en crescendo, de plus en plus difficiles, mais que j'ai jamais trouvé complètement rebutantes. Je trouve qu'il y a un système d'aide qu'on peut zapper.
Oui,
c'est un moment où on sature.
Qui est pratique.
Au bout de 5-6 fois, on n'y arrive pas. On peut la zapper, c'est-à-dire qu'on sèche pas bêtement devant une énigme ad vitam. Et on a surtout, moi, ce qui pour moi fait le sel de cette série, qui était déjà présent dans le dernier, c'est le système de déduction que je trouve très très malin, qui permet de clôturer un chapitre au sein de la partie, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment montré comme ça, c'est on clôture une section de jeu en montrant qu'on a bien compris le scénario. Alors c'est une façon toute bête de bien s'assurer que le joueur avait bien imbriqué dans l'histoire.
Imprégné de l'histoire.
Exactement.
Et
en fait on joue avec un tableau, en fait on va avoir la logique du scénario, des preuves qu'on a récupérées sur place, ou en faisant on a aussi des expériences, des manipulations chimiques, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais tout ça fait qu'on doit prouver par des réflexions qu'on a bien compris le fonctionnement de l'intrigue. Et c'est pour moi, je trouve que c'est le petit coup de génie qui fait que même si on a un peu zappé, on a réussi l'énigme, mais bon, on n'a pas capté tous les fondements du passage. Et ben hop, en passant par là, on est obligé bien répété à ce moment-là. Et c'est de façon assez ludique. Je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est bien pensé. Et ça s'intègre bien dans l'univers Sherlock Holmes.
Non, je suis d'accord avec toi sur ce système de déduction. En fait, on a tous les, donc, on a ces faits qu'on va pouvoir plus ou moins associer, pouvoir déduire, la conclusion, l'épître, la conclusion du chapitre.
C'est un moment, on a plus grand chose à faire. Non. Et là, on sait qu'il faut que, il faut qu'on avance en réfléchissant un petit peu, qu'on mette en place les différents ingrédients qu'on a.
En revanche, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que globalement, il touche pas l'univers de Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'on voit au cinéma, le Sherlock Holmes a changé, c'est un peu plus une espèce de James Bond dans les séries, dans
avec
la série
plus
britannique.
Ou moins de bonheur, justement.
Voilà, plus ou moins de bonheur dans la série britannique, c'est passé dans le monde contemporain.
Absolument,
c'est
génial.
On se dit, mais c'est dommage qu'il touche pas du tout au mythe Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'il ne remet pas un petit peu en question. Ça reste un petit peu, justement, à l'image, à l'univers. Du graphisme, un peu, justement, un peu poussiéreux.
Ouais, mais en même temps, j'ai envie de dire, moi, je comprends leur idée, ils font avancer leur jeu au fil des épisodes.
Ah, mais qui est meilleur, qui est plus, vachement plus joli, effectivement, que le précédent.
Il est plus accessible, et j'ai envie de dire, pour moi, c'est ça la priorité. Je disais, les graphismes, ils sont pas ultimes, mais on s'en fout. Moi, ce qui compte, c'est les mécaniques de jeu,
oui,
c'est que ça avance bien.
Ouais, mais à ce moment-là, là, ils ont essayé de mettre un tas de détails, de détails dans les graphismes. Mais pourquoi en mettre autant si c'est pour avoir un effet un petit peu chargé, un petit peu poussiéreux, un petit peu dommage, c'est vraiment la meilleure réserve. Alors tu parlais des qualités d'écriture, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que les dialogues sont très bien écrits. En revanche elles sont un peu gâchées par la version française, quoi.
La version française qui est un peu limite, qui
est vraiment limite, quoi. Dès le début, alors, une scène avec des enfants,
on sent qu'il y a encore des petites choses à perfectionner. Je pense que ça sera dans le prochain. Moi j'ai joué sur console, on sent qu'au niveau de l'interface il y a encore des petites approximations pour enclencher telle ou telle action, etc. On sent qu'il y a des choses à avancer. Les dialogues sont parfois inutiles parce qu'on est obligé d'actionner toutes les discussions. Donc finalement, ça, Il y a encore des choses à avancer, mais j'ai vraiment envie de dire que c'est sur la bonne voie. Et voilà, encore une fois, moi je dis que sur un jeu d'aventure, le principal, c'est l'écriture, le scénario. Et moi, j'ai vraiment plongé dans le scénario. J'ai vraiment accroché grâce à ça. Et ça m'a fait passer outre les petits détails graphiques.
Donc le testament de Sherlock Holmes voilà, sur console.
Sur console, PC. Et voilà, quand on aime le jeu d'aventure, je pense que c'est faut vraiment lui donner sa chance.
Le point and click. Hein,
ouais, il faut aimer le point and click. Une certaine évolution du point and click, mais je trouve que c'est plutôt bien joué. Minime.
Alors moi, je vais évoquer très rapidement FIFA 13 parce que ce sera un peu dommage de passer sur quand même c'est une des grosses sorties fois ne serait-ce qu'en volume de vente sur FIFA 13 hein, que j'ai eu en main et que j'ai bien joué ce week-end. Alors c'est toujours difficile hein, surtout sur les FIFA 10, 11, 12, 13 parce qu'il y avait eu déjà un grand chamboulement de FIFA 10 hein, qui avait remis le modèle FIFA un peu
le moteur avait complètement changé je crois
et c'est vrai que bon moi j'avais joué au 12 et là je suis assez pas très en mesure de vous dire les changements réels de gameplay. J'ai joué et j'ai retrouvé voilà c'est du foot hein, donc j'ai retrouvé
assez pointilleux dans
par contre il y a quand même pas mal d'évolutions. Alors je pense que c'est la plupart des évolutions sont à ce niveau là la grosse évolution c'est que pour la première année de mémoire nous avons une équipe française qui a 5 étoiles
hein. Ah ouais.
Quand même, ça c'est une grosse évolution.
C'est l'équipe qui a joué à l'Euro là.
Non, c'est PSG bien sûr. Hein, d'accord. C'est, le PSG qui a 5 étoiles. Non mais c'est une blague. Oh là là. Vous comprenez pas. Mais ceci dit, c'est vrai. Hein, L'OL dans ses meilleures années n'avait que 4 étoiles et demi. Et là, nous avons une équipe française à 5 étoiles. C'est quand même.
Patrick est un peu dubitatif.
Ouais, non mais
on peut revenir sur ça. Non mais ouais, je suis beaucoup moins.
La grosse nouveauté. C'est le mode Ultimate Team qui en fait alors c'est assez marrant qui récupère à l'intérieur de FIFA qu'on rappelle c'est un jeu payant où il n'y a pas d'abonnement etc mais qui récupère à l'intérieur de FIFA les principes du free to play c'est assez marrant c'est un jeu de cartes à collectionner on retrouve ceux qui ont grandi avec les albums Panini à remplir avec des autocollants de joueurs de foot
un grand sourire de Joël c'est pas les joueurs de foot.
Bon, il y en avait quand même. Et il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'on achète des packs bronze, argent, or, en fonction de, et avec des cartes rares et des autres cartes moins rares, etc. Et avec ça, on fait son équipe idéale. Et alors, ce qui est marrant, c'est que si on veut aller plus vite, évidemment, on peut dépenser des points Microsoft pour acheter des cartes, des packs plus rapidement. Mais ça n'empêche pas, c'est-à-dire que si on a suffisamment de patience ou si on joue des matchs, on gagne des points à dépenser suffisamment rapidement. C'est le bon principe du free to play, c'est-à-dire
Il y a un souci d'apporter du nouveau, quoi.
Oui, voilà.
Il y a ça, l'entraînement, ce que tu m'as parlé tout à l'heure.
Dans les autres améliorations, il y a un vrai système d'entraînement. Moi, que je trouvais qu'il y a toujours manqué, en tout cas, au dernier opus de FIFA. Là, il y a un vrai mode d'entraînement, un peu calqué, on va dire, sur les gens qui ont fait Top Spin 4 et ce genre de choses avec le jeu de tennis où on a un peu des exercices qui permettent de s'entraîner à un coup en particulier. Ici, on va avoir des entraînements au penalty, des entraînements au centre, des entraînements au tir, à la passe, etc., etc., et qui sont plutôt très bien faits. Et d'ailleurs, ils en ont profité parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, ceux qui jouent à FIFA le savent. Quand il y avait cette petite amélioration cosmétique qui était très agréable du temps de chargement qui donnait le contrôle d'un joueur face au but. Et c'était très agréable en temps de chargement parce que voilà, on sentait pas du tout le temps passé. Et tandis que là, ils ont remplacé. Enfin, il y a toujours ça. C'est possible, mais c'est un des exercices de l'entraînement en fait. Donc pendant que ça charge, on peut s'entraîner au centre, on peut s'entraîner au tir, etc. C'est plutôt agréable. Et alors moi, il y a quelques trucs qui m'ont un peu surpris, on va dire, pas choqué et pas déçu. Il y a quelques bugs, il y a quelques approximations visuelles, mais c'est rien. La balle qui sort en touche et puis t'as un grrr machin qui est un peu désagréable. T'as des célébrations, enfin une fois que le joueur a marqué, voilà, il fait des gestes et tout ça, et puis à certains moments t'as des joueurs qui lui tournent autour, il y a des trucs un peu flippants.
Sur quelle machine tu joues?
Xbox 360. il y a un joueur qui est hyper content, et puis t'as plein de joueurs qui ont l'impression qu'ils savent pas quoi faire autour, ils tournent autour, c'est assez bizarre de la part d'un FIFA où on s'attend toujours à un truc vraiment nickel, bien,
non, il y a un petit côté
bien huilé.
Ouais, un petit côté et... paranormal, quoi.
Ouais, ouais, mais presque. c'est assez bizarre. Enfin voilà, il y a quelques petites bizarreries. Enfin vraiment, c'est pas forcément des bugs parce que ça empêche pas de jouer, mais pour un FIFA, on s'attend pas à tomber sur ce genre de truc.
Mais n'ont pas encore déporté tout ce qui est entraînement, soit sur les tablettes, ou ça pourrait être complémentaire en fait d'avoir tu disais
alors,
des entraînements.
Alors je crois, mais je ne suis pas sûr que le mode Ultimate Team
permet de jouer sur d'autres machines.
On peut gérer son équipe sur d'autres supports, mais je mets un gros bémol, mais je crois avoir vu ça passer pendant que je jouais. Voilà, c'est tout pour FIFA 13. Hein. On va pas en parler des heures non plus. C'est du foot. Quoi ?
Non.
Non,
on adore le foot.
Bon, allez, parlons de Little Big Planet Vita.
We must stop him, or we will soon reach the end of the road. Oh, Genix, the end of the road.
Little Big Planet Vita. Je dois avouer que je suis passé à côté de Little Big Planet 2 sur PS3, honte à moi, et que j'étais presque sur le point de passer à côté de Little Big Planet Vita quand Joël Métro, ici présent, m'a dit
malheureux.
Et franchement, il a eu raison, parce que quelle belle surprise que ce Little Big Planet sur console portable. Joël.
Ouais, carrément. C'est moi, je le dis tout de suite, c'est un jeu qui mérite d'atterrir tout de suite dans la ludothèque de tout possesseur de PS Vita, tellement ce jeu est magnifique. Alors, je pense que la plupart des auditeurs connaissent Little Big Planet, cette licence qui est née, je crois, en 2008 ou 2009, où on incarne, voilà, on joue ce personnage de Sackboy, cette espèce de peluche, un peu en tissu. Qui évolue
toile
dans
de
ce
jute.
En toile de jute. Qui évolue dans ce monde en fait de matière, où on a l'impression de pouvoir les toucher, les sentir, que ce soit justement du tissu, du carton, du papier, enfin bon, je vais pas énumérer toutes les matières de la terre. Et donc là un portage sur PS Vita, mais il s'agit vraiment d'une nouvelle aventure, quoi. Ils ont pas simplement repris des niveaux des précédents et l'histoire. Là, il s'agit vraiment d'une histoire entièrement nouvelle où Sackboy va se trouver confronté à une espèce de marionnettiste qui en fait confisque la joie dans l'omnivers qui est l'univers de Little Big Planet. Donc le Sackboy va rencontrer différents personnages, traverser 5 mondes différents qui sont eux-mêmes composés d'une dizaine de niveaux, des mondes souvent inspirés du thème du carnaval, de la fête foraine pour la plupart. Et c'est vraiment magnifique. On retrouve vraiment tous les aspects que les joueurs de Little Planet se reconnaîtront vraiment là-dedans. Mais le jeu utilise très bien les spécificités, les fonctionnalités de la PS Vita. C'est-à-dire, par exemple, le pavé tactile arrière va pouvoir...
On se sert du pavé tactile arrière.
Pouvoir faire sortir des plateformes, par exemple, des objets du décor qui vont servir, en fait, de relief pour évoluer dans les niveaux de plateformes. On va pouvoir incliner, il y a certains niveaux qui vont se dérouler, où le personnage de Sackboy va conduire un véhicule, et en inclinant la PS Vita, le personnage va bouger. Et c'est en plus très beau. Alors,
il y a plein de choses aussi sur l'écran tactile. On se sert énormément du doigt pour changer les plateformes, faire tourner des trucs, remonter des ressorts, etc. C'est un peu tout le temps, et on s'émerveille en fait assez facilement.
C'est vraiment très très beau. Les effets de lumière sont très bien faits. La musique, je trouve, est toujours une des très belles marques, une très belle marque de fabrique de cette licence. La musique est toujours très bien choisie, la bande sonore, les sons. Pour une fois, en fait, donc c'était Molecule Media qui était à l'origine des précédents sur PS3. Là, il s'agit d'un petit studio suédois qui s'appelle le Tarsier, je crois. Donc, qui est à l'origine de cette, qui à mon avis, qui est un petit chef-d'œuvre. En plus, qui a beaucoup de références, de clins d'œil à la culture vidéoludique. On retrouve à l'intérieur des mondes, des petits niveaux qui font référence à pas mal de jeux d'arcade, quoi, qui sont faits de manière plutôt.
On se rappelle notamment, enfin moi, sur ce que j'avais vu et j'avais regardé en tout cas des parties sur Little Big Planet 2 et même sur le premier avec tous les niveaux que les utilisateurs, que les joueurs faisaient. Il y avait des collections de références à toute l'histoire du jeu vidéo et même encore plus dans le 2 qui permettait d'incorporer des mécaniques complexes. C'était toujours un truc ultra référencé.
Est-ce qu'il y a des connexions avec le jeu PS3? Enfin, avec le 2, ou est-ce qu'il y a des échanges de niveaux, des choses comme ça?
Alors, je crois pas. Il me semble. Alors, j'ai un doute.
J'ai un doute aussi.
Alors, je sais que
celui-ci est concerné.
Donc, il y a le mode histoire, voilà, qui, à mon grand regret, est vraiment trop court. Enfin, je sais pas combien de temps il dure, mais il est vraiment trop court. Mais il va pouvoir être complété par tous les autres niveaux, niveaux qu'ont fait les joueurs. Alors, j'ai un doute. Je sais pas si on va pouvoir évoluer dans les niveaux qu'ont conçu les joueurs pour la PS3. Ouais. Là, je sais pas.
Bon, à vérifier. En tout cas, moi, il y a ce qui m'épate toujours, c'était déjà le cas avec le premier, hein, c'est ce qui m'amuse toujours dans Little Big Planet, c'est que c'est très chargé, évidemment, parce qu'ils mettent plein d'objets et tout ça, et ça reste visuellement de très bon goût. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté, enfin, le Sackboy est un personnage incroyable. Je trouve cette petite poupée en toile de jute et qu'on peut habiller, mettre des lunettes, des coiffures, des chapeaux, tout ça. Enfin, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. On peut poser des autocollants partout dans les niveaux. On peut. Enfin, il y a vraiment une. Toute une profusion de choses dans Little Big Planet. Je trouve que celui-là est vraiment un digne héritier des Little Big Planet consoles de salon. On n'a pas l'impression de perdre en route rien, voire on a l'impression de gagner avec cet aspect tactile très utilisé avec très bon goût. Encore une fois, il y a vraiment une bonne utilisation de toutes les fonctionnalités de la Vita. Enfin, vraiment, on sait que les Little Big Planet sont pas des succès commerciaux. Ça a toujours été des jeux qui ont eu du mal à trouver un public. Enfin, ils ont leur public, ils ont un public fidèle, nombreux, mais ça a jamais percé dans le grand
là,
public.
Visiblement, c'est une vitrine quand même pour la bécane.
Carrément.
Les technos utilisés.
Vraiment, et en plus, on le répète, il est magnifique. Moi, je le mets à côté de Gravity Rush dans un peu les jeux indispensables. Pour l'instant, ils sont deux, hein, donc c'est pas grave, c'est pas dur. À la console, à la PS Vita, hein, c'est vraiment vraiment une très très belle surprise. Voilà, donc
rien à ajouter.
Vous devez y jouer. En tout cas, si vous avez une Vita, vous n'avez pas trop le choix en même temps. On va accueillir, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, on pouvait se poutrer dans l'espace à grands coups de laser. Et c'est ce que je vous propose cette semaine avec un petit jeu qui répond au nom de X-Wing Miniature Games. C'est un jeu de Jason Little, édité par Edge en français. Donc, c'est un jeu pour deux joueurs à partir de 14 ans. Pour des parties d'une vingtaine de minutes. Alors là, déjà, deux petits points. Vous allez voir qu'une fois les réflexions faites, vous verrez qu'on peut jouer à plus de deux joueurs, que les règles sont tellement simples qu'on peut commencer à partir de 8 ans, sauf que le matériel est un peu petit. Donc, pour des raisons de sécurité, ils mettent 14 ans. Et donc, c'est une licence Star Wars, une belle licence Star Wars dans une boîte de base, car c'est un jeu à extension. Vous allez trouver trois vaisseaux. Vous allez trouver donc un vaisseau pour les gentils, un X-Wing, et puis deux vaisseaux pour les méchants, des chasseurs Thaï. Vous allez trouver aussi des cartes pour des pilotes, des cartes pour des accessoires, R2-D2, etc., etc. Et le jeu est extrêmement simple. Il y en a un qui va jouer les gentils, l'autre qui va jouer les méchants. Vous avez un certain nombre de points pour fabriquer votre camp, par exemple 40 ou 50 points. Ces points, vous les répartissez. Vous dites, je vais prendre tel vaisseau avec tel pilote, je vais me rajouter ça et ça comme matériel. L'autre va faire pareil. Et puis, vous allez vous affronter sur des scénarios avec un scénario de base qui est simple, détruire complètement l'adversaire. Donc, c'est simple, c'est efficace. Il y a d'autres scénarios un peu plus compliqués, hein, d'accord? Puis après, pour jouer, c'est très très simple. Chaque joueur a une petite rondelle devant lui qui va lui permettre de programmer ses mouvements. Chaque joueur programme ses mouvements. Je vais à droite, à gauche, je fais un demi-tour, je me décale sur le côté. On révèle, celui qui a le vaisseau le plus rapide va jouer en premier, etc., etc. Une fois qu'on est face à face, on ou sur les côtés, on décide si on regarde avec une petite règle, si on peut se tirer dessus, on se tire dessus, on jette des dés. Si on est abîmé, on met un marqueur d'abîmé et on passe à la suite et on recommence jusqu'à ce que le scénario soit complété. C'est extrêmement bien, c'est facile, c'est rapide. On s'y croirait, on est au volant, on entend les bruits de laser. Tchouf, tchouf, tchouf. On est là, on est fou, on est jeune, on s'amuse. C'est très, très bien. bien fait l'idée, c'est que, évidemment, on peut jouer à plus. Parce que, dans la boîte de base, déjà, on peut jouer à trois. Vous avez deux chasseurs taille, vous avez un X-Wing, un joueur va jouer un X-Wing, un joueur va jouer un chasseur taille, et l'autre joueur va jouer un chasseur taille. Donc, à trois, on peut commencer à s'amuser, on peut même faire semblant de se communiquer par pilon, tu prends sur la gauche, je vais prendre sur la droite. Enfin, bref, c'est amusant. Il n'y a pas d'extensions qui vont arriver, qui vont permettre de jouer d'autres vaisseaux, des vaisseaux célèbres, le Faucon Millennium, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir jouer à plusieurs, voire monter carrément une grosse bataille si vous avez plein de figurines et plein d'argent, parce que c'est un peu cher. La boîte de base coûte 40€ pour trois figurines. Il n'y a pas que trois figurines, hein. Il y a les socs, il y a des petits machins pour dire je joue tel pilote et tel pilote, il y a des cartes, il y a plein de trucs à l'intérieur, hein. Et puis après, chaque petite figurine va sortir à part, séparée. Vous trouverez donc dans une petite boîte transparente sur les étals des boutiques votre vaisseau accompagné des cartes qui vont avec, qui vous pouvez jouer, du matériel supplémentaire. Ça va coûter aux alentours d'une quinzaine d'euros, peut-être 20, 25 si c'est des gros vaisseaux puisqu'ils sont à l'échelle, hein. Donc je vous rappelle le nom, c'est X-Wing Miniature Games, un jeu de Jason Little édité par Edge en français. Un jeu soi-disant pour deux joueurs, mais on peut jouer à plus. À partir de 14 ans, des parties de 20 minutes, ça peut être un petit peu plus long, hein. C'est une merveille, ça marche à la perfection. C'est facile, c'est agréable. Moi qui n'aime pas les jeux de figurines, bah, je me suis bien poilé, c'est normal. J'aime beaucoup Star Wars et moi, mon cher Warren, je vous dis à la semaine prochaine et que la force soit avec vous.
Merci, monsieur Fall. Tchou, tchou, tchou. Ouais, moi aussi. Pendant que vous parliez, j'entendais moi aussi les tirs de laser dans l'espace lointain, si lointain. La minute culturelle, alors la minute culturelle, elle est un peu spéciale, c'est une minute culturelle par VNZ, ah, mais il voulait, alors je vous lis son introduction, pour que même si c'est moi qui l'a fait, la minute culturelle puisse rester de marmotte 19. Oula. Alors attention, quelques petites questions sur les marmottes et sur le nombre 19. Voilà, logique. alors il précise, hein, surtout sur le nombre 19, en fait les marmottes sont scandaleusement sous-représentées dans le jeu vidéo.
Oui, non, mais on le dit pas assez souvent.
Ouais, on le dit pas assez souvent. Donc première question, quel était l'effet de la commande 19 dans Age of Empire? Remember. Eh bien, c'était le rire. C'est l'ancêtre du LOL dans ce jeu. Ah, voilà, comme quoi ça correspond bien. Dans quelle série de jeux vidéo peut-on trouver la marmotte archdémon de l'infamie? Comme quoi, c'est présent déjà.
Un indice.
Un indice, c'est, sûr, ouais. C'est lié à des cartes à collectionner.
Pokémon.
Oui.
Non. Pokémon, non. oui.
L'anoir, oui.
Yu-Gi-Oh.
Non. Ouais, formidable. Le jeu bien de joué. Cartes Yu-Gi-Oh. Quels sont les deux jeux, selon le site internet Game Cars Database, dans lesquels on peut conduire une Renault 19?
Ouh. Oh là. Grand Turismo.
Et non. Pas du tout.
Ah, il n'y a aucun Grand Turismo.
Non. Ouais.
Renault 19,
ça ressemble à quoi déjà?
C'est
une grosse Renault,
je suis absolument fan des
questions. Non, je sais pas, moi...
C'est pas un utilitaire?
Non, c'était la berline des années 90. Hein, c'est,
ah oui, Town Madness, non, il n'y en a pas un avec des...
Il y a The Getaway Black Monday, oui, et Driver 3.
Oh,
oui, il faut y avoir joué en même temps. Quelle est la particularité de la 19e chambre de test dans Portal?
Le premier
portal, oui.
Premier portal.
Ouais, voilà. Alors, attention, hein, pour les trois auditeurs qui n'ont pas joué à Portal, ils peuvent se boucher les oreilles, il s'agit d'un spoiler. C'est la dernière chambre de test censée se terminer par l'incinération de Shell. Voilà, si vous vous souvenez, pour l'avoir fini, évidemment, comme chacun, au moins une douzaine de fois, voilà, c'est celle-là. Et de quel jeu tiré d'un film cultissime des années 80 se déroule en 2019?
Ah bah c'est... c'est Blade Runner.
Yes, Blade Runner. Et oui. Et voilà. Donc, c'était la minute culturelle de Marmotte 19, sans Marmotte 19. Voilà. Et on passe à quoi? Oui, petit jeu du lapin de l'enfer. Hell yeah. Hell yeah! De Sega, ça vient tout juste de sortir, ça vient toujours d'arriver sur les consoles. On me retire le micro parce que je hurle dedans, c'est quand même bizarre. C'est de la censure,
c'est
monsieur.
Pas mis,
c'est incroyable. Oui, je pète les oreilles des auditeurs, c'est pas grave. Oui, donc je disais, oui, ça vient tout juste d'arriver ce mercredi, hein, sur Steam et sur les consoles en téléchargement. C'est le dernier titre du petit studio Arkedo, studio parisien, enfin studio français en tout cas, parce que breton maintenant je crois à moitié. Bref, elle y est. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Patrick?
Bien, alors pour resituer, c'est faut quand même resituer un peu l'univers complètement barré de ce jeu, parce que c'est complètement barré. Hein. On incarne quand même un lapin démoniaque.
Donc il ne reste plus que le squelette.
Voilà, qui est complètement et qui en fait se fait surprendre en compagnie d'un canard en fait. Hein,
canard de bain.
Il est en très mauvaise situation.
Ah oui,
des photos
sont
prises.
Ils font des trucs terribles, quoi.
C'est horrible.
Enfin, c'est horrible.
Et donc on incarne ce lapin qui va essayer de récupérer les photos.
Hein, les photos. Et les photos, il les récupère comment? Auprès des monstres.
Et des monstres, évidemment. Ouais. Alors voilà. Alors c'est. Alors moi, ce que j'ai bien aimé.
Il y a des scénars quand même.
Hein. Et qui va, moi, je trouve, qui est complètement en phase avec l'univers graphique du jeu, qui est complètement, complètement barré. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que pour moi, c'est un vrai trip régressif. Mais vraiment, ce jeu, je l'ai vraiment vécu comme un vrai trip régressif. Hein, c'est-à-dire que je me suis surpris à me boire un bol de Nesquik en jouant. Je me suis retrouvé il y a une vingtaine d'années, j'avais
un pyjama,
j'étais en pyjama, tout ça. Et bon, enfin, faut pas trop en parler. Mais un vrai trip régressif dans le sens où j'ai vraiment retrouvé les sensations que j'avais sur mon bon vieil Amiga dans les années 90. Avec ces jeux de il y a eu toute une vague sur l'Amiga de jeux comme ça de plateformes shoot qui étaient plutôt bien foutus, pareil assez clinquant au niveau visuel avec la musique assez stridente, assez frappante. Mais en y jouant, je pensais beaucoup à un jeu de Psynosis, je sais pas si vous avez connu The Killing Game Show de Psynosis, qui était sur Amiga, qui était un jeu pareil qui envoyait pas mal au niveau graphique. Et enfin moi j'ai vraiment bien aimé ce côté retour un peu à des jeux qui en donnent pas mal au niveau visuel, au niveau sonore.
Oui, parce que les niveaux sont vraiment construits, enfin tous les décors, les couleurs sont très criardes.
C'est très criard, c'est très tape à l'œil.
Très tape à l'œil, c'est pas forcément de bon goût.
Ah non, ah non, mais comme les jeux Amiga de l'époque,
voilà,
t'avais aussi
pas forcément
à l'époque
de bon goût.
Des trucs assez qui piquaient les yeux, mais c'est plutôt rigolo. Et alors moi, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé quand on se balade surtout dans des labyrinthes, on doit exterminer un certain nombre de boss pour avancer, ouvrir des portes et évoluer comme ça au fil des niveaux. Les trucs moi qui m'ont fait craquer, c'est on a des espèces de mini jeux lorsqu'on doit assassiner un des boss. Et alors là, là on arrive sur du QTE complètement délirant. Ça fait penser à du WarioWare, hein, dans les mini jeux complètement hallucinants. Et en fait, la force au moins de ce jeu, c'est l'humour, c'est-à-dire que c'est complètement barré. Il y a du second degré tout le temps, c'est-à-dire qu'on singe un peu les codes du jeu vidéo, on cite des univers plus ou moins, on pense aux Pokémon avec les noms des personnages, on collectionne les cartes aussi des monstres.
On prend même à partie le joueur, quoi.
On lui parle
au joueur, en disant, tiens, on va t'épargner le didacticiel relou.
Et voilà, il y a un côté vraiment, vraiment second degré, assez rigolo. Après, après quelques temps de jeu, c'est vrai qu'on se rend compte que la formule est assez, est assez régulière au fil du jeu.
Peut-être un peu répétitif.
Un peu répétitif, voilà. Je pense que c'est à mon avis le bémol du jeu, c'est le côté un peu répétitif. Et puis aussi des petits soucis au niveau du gameplay sur les sauts notamment.
Ça joue pas grand chose, mais c'est un peu embêtant,
un flottement dans les sauts et le fait on sait pas trop si on saute, si on doit s'envoler, etc.
Notamment contre les murs, enfin quand le lapin doit sauter contre les murs, c'est un peu, il y a des moments où c'est un peu pénible. Enfin moi je me suis un peu arraché les cheveux à ces passages là.
C'est vrai qu'il y a des moments.
Et Joël, alors toi, ton impression générale sur...
Non, c'est pas mal quoi. C'est vraiment un jeu effectivement avec ce côté un petit peu rétro, un style un peu peut-être pas des fouloirs, mais un côté un peu n'importe quoi.
Il y a aussi Sonic 2 qui est pas mal cité. D'assez Sonic mauvais dans les niveaux.
Oui, assez mauvais goût, mais un mauvais goût un peu.
Mais ouais. assumé, rigolo
quoi.
Ouais,
assez rigolo. Effectivement, la destruction des mini boss est assez marrante. On peut aussi envoyer nos monstres. Et c'est dommage, l'idée est pas assez bien exploitée. On peut envoyer les boss, les monstres qu'on a combattus. On peut les envoyer sur une île où en fait ils vont aller travailler et nous offrir en fait après le fruit de leur travail, des cadeaux, tout
on
ça.
Sent qu'il y a plein
ça,
de il y a
c'est
plein
bien
de,
c'est
bien réfléchi on sent c'est... que il y a eu
enfin c'est bien, mais je trouve que l'idée reste un petit peu sous-exploité. Donc on a tout un éventail d'armes pour désinguer ces boss,
mais on change avec les gâchettes. Le gameplay est franchement plutôt bien foutu au niveau des touches, etc. Ça se manipule bien.
Après moi c'est pas forcément un jeu que j'aurais forcément envie de terminer quoi.
il faut enfin, ouais, moi, ce qui vraiment m'a fait accrocher, c'est le côté rétro. C'est vrai que j'ai vraiment bien aimé les codes et le fait qu'on, voilà, qu'on se moque ouvertement des Sonic, de tous les jeux dont je parlais tout à l'heure, des jeux Psygnosis un peu clinquants de l'Amiga. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo. C'est ce qui va m'y faire revenir, je pense.
Voilà. Et donc voilà, il s'agit de Hell Yeah sur PC.
Et graphiquement, ça tient bien la route quand même. Faut connaître que je trouve que avec un parti pris particulier.
Voilà, c'est le parti pris qu'on connaît, hein, chez Arkedo, et cette ce tropisme rétro du côté d'Arkedo. C'est donc une quinzaine d'euros sur PC et console à télécharger. Et on va terminer très très rapidement avec Mark of the Ninja.
We need to make him look the other way.
Wait a sec. You hear that? Did I hear something?
Mark of the Ninja à télécharger sur le XBLA. Et donc, voilà, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines sur le XBLA. C'est du même studio qui avait fait, alors j'ai très peur parce qu'encore une fois je l'ai pas noté, hein, deux jeux de plateforme action, Shrunk 2 ou un truc comme ça, mais bref, qui était pas mal designé, mais très désagréable à jouer. Enfin, moi, pour ma part, j'avais vraiment, vraiment pas accroché. Et donc là, ils reviennent avec une histoire de ninja. Alors déjà,
c'est toujours bien quand il y a un ninja. Ouais. En général, c'est déjà un point fort.
Voilà, quand il y a un ninja, c'est quand il y a un pirate, on part déjà
si
bien.
Si ça peut être mauvais. Mais...
Oui, ça peut. Oui.
Non, pardon, c'était.
Bref, et Mark of the Ninja. Donc on est toujours sur du 2D, toujours sur du graphisme dessiné. C'était un peu la marque que des précédents titres, mais là on change un peu de registre, on change de l'action tir un peu bourrin et on passe en infiltration, ne pas se faire repérer, tuer discrètement.
L'ADN du ninja.
Voilà, l'ADN du ninja. D'ailleurs, c'est tellement son ADN que s'il se fait repérer, il peut plus rien faire.
Donc vraiment, il est paralysé. Oui,
il peut pas tuer.
On fait quoi
en frontal,
c'est quoi le scénario? On a investi des.
Alors le scénario, c'est que le temple des ninjas a été attaqué par une méga corporation, il faut retourner se venger, et on joue un peu le super ninja parce que il a pris une substance toxique va à moitié le rendre fou, et une fois qu'il aura fini sa mission, il devra se faire harakiri.
Winners don't use drugs à l'époque.
Mais là c'est un peu l'inverse, sauf qu'il meurt à la fin.
Le gros spoiler.
Vous écoutez pas quand je parle. C'est dépendant de la drogue, de la plante qu'il prend, vu qu'il va devenir de plus en plus puissant, il va aussi devenir de plus en plus fou, et juste après avoir accompli sa mission, il devra se tuer. En tout cas, c'est ce qui est annoncé au début du jeu.
Je
ne raconte pas la fin.
Et donc c'est en 2D avec de l'infiltration, c'est ça?
C'est en 2D avec de l'infiltration, donc il faut sauter, se cacher dans l'ombre, se cacher derrière les objets, blaster les sources de lumière.
C'est pas un remake de Saboteur sur Amstrad quand même? Saboteur 1 et 2, rappelez-vous.
Je n'y ai pas joué.
Parce que d'après ce que tu me dis, ça ressemble franchement, faut que j'essaye.
Non, mais ceci dit, je pense que les principes de jeu d'un jeu d'infiltration en 2D sont assez récurrents.
Mais
il y a des personnages qui regardent dans une direction ou dans l'autre. On peut arriver derrière, dans leur dos, et là, les exécuter en silence. Alors, si on fait pas la bonne combinaison, c'est une direction plus la touche X, on loupe l'attaque en silence. C'est assez basique, hein, mais ça nous arrive de rater une attaque en silence qui peut alerter les autres gardes. Il y a une gestion du son aussi, c'est assez rigolo. Quand on court ou quand on atterrit, en fait on a du son qui est représenté à l'écran, c'est-à-dire il y a une espèce d'onde de son qui nous fait voir jusqu'où est-ce qu'on est entendu, et notamment quand un chien commence à aboyer, ça se fait entendre très très loin. Le problème de ces saloperies de chiens, c'est qu'ils ont un odorat, donc un peu le cauchemar du ninja dans le noir.
Pas mal, non,
et c'est vraiment, alors voilà, je n'ai pas jugé la qualité du jeu, et pour le coup c'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi je me suis éclaté.
Graphiquement, ça ressemble à quoi?
Graphiquement, c'est dessin animé, c'est vraiment type dessin animé. C'est enfin il y a pas de vrais défauts, c'est les niveaux sont très il y a plein de petits passages secrets dans tous les sens où on peut aborder une pièce on peut juste éviter des gardes, ça nous donne des points. Oui, parce qu'en plus il y a une sorte de replay value énorme, parce que évidemment les premières fois où on fait des niveaux, on se fait toujours repérer au moins 1, 2, 3, 4, 5 fois, parce que les niveaux sont quand même très grands.
Et après tu cherches le perfect.
Voilà, on cherche le perfect.
En bon ninja,
on a le choix entre ne pas se faire repérer et tuer ses opposants silencieusement, cacher les corps ou pas, utiliser. Alors il y a une il y a un truc qui est absolument exceptionnel, c'est les objets qu'on lance, les petites fléchettes pour éteindre les lumières, pour éteindre les transformateurs électriques. Il y a des pétards pour détourner l'attention, des bombes de fumée.
Hein, tout l'attirail quoi. Ah, c'est bon ça.
Que serait un ninja sans ces bombes de fumée, ouais. etc. Ah, ouais. Il y en a d'autres. Ouais. Et en fait, on les lance et c'est une sorte de super sens du ninja, c'est-à-dire que quand on appuie sur la gâchette gauche, en fait on bloque le temps, c'est-à-dire que le temps s'arrête, et puis en fait on peut choisir plusieurs cibles dans lesquelles ce qui fait que par exemple on peut bloquer le temps en l'air, donc on est en plein saut, on bloque le temps et là on éteint toutes les lumières d'un coup en balançant 5 fléchettes, ça c'est possible, et il joue comme ça sur le gameplay où on fait de la chute libre et il faut bloquer le temps pour éviter de se faire blaster par des lasers, et donc on bloque le temps en pleine chute libre pour détruire des transformateurs électriques, etc. Et je vois l'heure qui tourne, c'est très très bien. Mark of the Ninja à télécharger, au moins sur Xbox. C'est vraiment vraiment très très bon. Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'avez pas échappé et à laquelle vous allez répondre très très rapidement. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël?
Alors j'ai regardé récemment les trois derniers épisodes qui dataient de 2011 de Absolutely Fabulous.
Oh my god.
Oui, voilà, parce que nos vieilles peaux ont rempilé en fait pour trois épisodes qui sont assez vraiment super drôles pour ceux qui sont fans de la série. Voilà, puis j'ai commencé à lire un livre qui est vraiment intéressant, qui sort à la fin du mois, qui s'appelle 5e Avenue, 5h du matin. Et en fait, c'est l'histoire de la genèse de ce film culte qui date de 61, Diamant sur canapé, avec Audrey Hepburn, voilà, qui était devant les vitrines chez Tiffany, ils sont en train de regarder tous ces bijoux qui la faisaient rêver.
Patrick.
Alors déjà un petit mot pour Brenkit, à qui j'ai échangé quelques petits mots sur le forum sur le sujet de Jerry Lewis. Il a envoyé des liens vers des vidéos assez cultes, hein, notamment la réunion de Jerry Lewis et Dean Martin. Donc merci pour les vidéos à lui. Sinon j'ai trouvé une petite perle niveau film cette semaine. Ça s'appelle La Chaîne. C'est un film des années 60 avec Tony Curtis et Sidney Poitier. C'est vraiment une petite perle que je recommande vivement. C'est réalisé par Stanley Kramer. Alors pitch très simple, hein, deux prisonniers, donc Curtis et Poitiers, qui s'évadent lors d'un transfert de prisonniers. L'un est noir, l'autre est blanc. On arrive dans l'Amérique du Sud raciste, et il va falloir qu'ils se débrouillent pour survivre. Évidemment, Curtis est un raciste. Et voilà, tout le film est basé sur l'antagonisme entre les deux personnages, la façon dont il va falloir qu'ils survivent, parce que j'ai oublié de préciser qu'ils étaient attachés par une menotte. C'est un élément important du scénario. Et vraiment, c'est super bien joué. J'ai vraiment beaucoup aimé le rapport entre les deux personnages qui évolue au fil de l'histoire. Et c'est vraiment un très beau film. Voilà.
Alors pour ma part, j'ai découvert grâce à Daniel alias Camus Robotics le nouveau comics sur le personnage de Hawkeye. Donc l'Avengers bien connu, qui était un sous-Avenger machin, mais qui a été repris par Matt Fraction au scénario et David Aja au dessin. On se rappelle, c'est eux qui avaient repris Iron Fist aussi, qui en avait fait une série absolument magique. Et franchement, il n'y a que deux singles pour l'instant, deux ou trois peut-être, et ça promet d'être une très 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 grande série actuelle en comics. Qu'est-ce que fait Hawkeye quand il n'est pas avec les Avengers et quand il n'est pas en costume, et franchement ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bref, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.